Bien, mes chers collègues présents dans la salle ou en visioconférence, car nous avons plus de personnes en visioconférence dans la salle, ce qui est assez logique pour auditionner le ministre en charge du numérique, qui est sans doute un grand promoteur de la visioconférence. Et donc, je rappelle, surtout pour Monsieur le ministre, que je suis très heureux d'accueillir et auquel, par ailleurs, je souhaite une bonne et heureuse année 2021. Une année sans aucun doute placée sous le signe du numérique. Et donc, je rappelle les règles d'organisation des auditions des ministres que nous avons mis en place et que nous avons déjà expérimenté avec la ministre des Sports tout à l'heure. C'est une série de questions-réponses, 3 minutes de questions, 3 minutes de réponses. Il n'y a pas de propos introductifs et les groupes qui le souhaitent peuvent éventuellement subdiviser leur temps de 3 minutes en deux ou trois orateurs. Mais de toute façon, ça ne dépasse pas 3 minutes et nous enchaînons pour que ce soit à la fois dynamique et surtout que les réponses soient aussi précises que possible, les questions, les réponses. Pour d'abord peut-être dire quelques mots. Monsieur le ministre, ce projet de loi, bien sûr, vous le connaissez. Il y a des articles qui concernent la lutte contre la haine en ligne. C'est un sujet, je pense, qu'on peut dire qu'il tient à cœur à beaucoup de députés qui, vous le savez, avaient déjà travaillé sur ce sujet. Des textes avaient déjà été adoptés. Et il a fallu remettre l'ouvrage sur le métier puisque le Conseil constitutionnel avait censuré certaines dispositions adoptées au Parlement. Par ailleurs, dans les auditions que nous avons conduites déjà depuis la fin décembre et depuis 3 jours en ce début d'année, le sujet est revenu très souvent. Je le dis avec Laetitia Avia à mes côtés, qui est rapporteure thématique sur cette partie du texte et qui avait déjà travaillé sur ces sujets. Beaucoup de représentants très divers ont vraiment insisté sur l'importance de traiter dans ce texte de ce problème. Cela a été le cas des représentants des cultes, dont plusieurs nous ont dit avoir été victimes de pas simplement d'actes individuels, d'appels à la haine sur Internet, mais parfois d'opérations concertées, militantes, avec un certain nombre évidemment d'internautes qui se mettent en mouvement pour désigner à la vindicte tel ou tel responsable de culte. Nous avons eu la même remarque, et pourtant je ne pense pas qu'il se soit concerté, avec les représentants de loges maçonniques. Évidemment, quand on sait, là pour le coup, l'ancienneté du complotisme autour des loges maçonniques, ça ne surprend personne. Mais des personnes ont été nommément visées, alors que justement le principe des loges maçonniques est que seuls les adhérents, si on peut dire, disent qu'ils en sont membres. Nous avons eu également le sujet largement évoqué par les représentants des élus locaux, maires, présidents de collectivités, qui sont mis en cause régulièrement, personnellement, dont parfois les coordonnées, puisque c'est un des sujets, sont diffusées sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour évidemment nuire aux personnes concernées et appeler à la vindicte. Nous, les représentants des associations de collectivités ont aussi indiqué que les fonctionnaires ou les agents de ces collectivités étaient eux aussi mis en cause. Et évidemment, on le sait, c'est aussi le cas pour des responsables associatifs, pour des fonctionnaires de l'État. On a évidemment en mémoire le drame de l'assassinat de Samuel Paty, qui avait d'abord été mis en cause sur Internet par des internautes, sur différents réseaux. Et puis, enfin, cela peut être le cas de n'importe quel citoyen. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui est extrêmement important à nos yeux. Je passe tout de suite la parole à Laetitia Avia, rapporteure thématique, sur cette partie du texte.
Merci,
Je
monsieur.
rappelle, 3 minutes maximum.
Merci, Monsieur le Président, et merci pour vos propos introductifs. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je vous souhaite également une très bonne année, une année sous le signe de la construction d'un Internet protecteur pour toutes et tous. Alors, ce texte comporte en effet un chapitre consacré à la lutte contre la haine en ligne, avec des dispositions sur lesquelles nous avons déjà travaillé avec l'article 19, mais aussi de nouvelles dispositions. C'est ce que M. le Président vient de rappeler, cet article 18 et ce nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui sur Internet, qui répond à un certain nombre de situations qui ont d'ores et déjà été évoquées, qui répond bien sûr à l'assassinat de Samuel Paty, qui répond également à la situation de la jeune Mila, mais à d'autres situations également qui nous ont été évoquées par les associations. Ne serait-ce que les risques encourus par les jeunes victimes de procédés de outing malveillants. Et peut-être avez-vous d'autres exemples également de mise en œuvre à nous présenter. Je voulais revenir avec vous sur les dispositions sur lesquelles nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la loi de lutte contre les contenus haineux, cet article 19 qui permet de lutter contre les sites miroirs. Un article qui reprend un dispositif qui avait été voté par l'Assemblée nationale, mais je tenais à vous transmettre un point d'alerte sur cet article dans le sens où il ne reprend pas exactement le dispositif tel qu'il avait été voté par le Parlement, mais élargit la possibilité de pouvoir demander aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer un site haineux à caractère miroir et l'élargir à toute personne qui serait détentrice d'une décision de justice. Je voulais savoir pourquoi cet élargissement, qu'en pensez-vous dans la mesure où les FAI sont surtout des tuyaux qui ne qualifient pas et n'analysent pas les contenus, et comment voyez-vous l'application opérationnelle de cet article ? Et enfin, vous le savez, la lutte contre la haine en ligne ne peut pas passer contre une action, ne peut pas passer sans une action contre l'ensemble des acteurs qui agissent dans la diffusion et la propagation des contenus haineux. Et premier lieu, les réseaux sociaux. On en a parlé beaucoup depuis le début de ces travaux. Les réseaux sociaux, en ce qui sont un lieu d'accélération et donc de propagation virale souvent des contenus à caractère haineux. Et la récente élection de Miss France et les contenus antisémites à l'encontre d'April à Pallium ne peuvent que douloureusement nous le rappeler. Vous aviez indiqué, à la suite des interrogations soulevées par beaucoup sur le rôle des réseaux sociaux dans l'assassinat de Samuel Paty, que nous allions voir en fonction de ce qui serait porté à l'échelle européenne, le Digital Services Act, quelles mesures pourraient être portées à l'échelle nationale pour pouvoir engager une responsabilisation des réseaux sociaux et donc mieux lutter contre ces phénomènes de haine en ligne. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui présenter à la commission spéciale l'état de ces travaux pour pouvoir vraiment avancer dans la régulation de l'ensemble des acteurs du numérique, acteurs de la haine en ligne ?
Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour 3 minutes.
Alors, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, commencez par vous souhaiter effectivement une très bonne année, placée probablement sous le signe du numérique comme l'année qui se termine. Je ne vais pas revenir sur les qualificatifs, l'ampleur du sujet. Je pense que vous l'avez bien exposé. On a eu l'occasion dans cet hémicycle d'en discuter à plusieurs reprises. Et donc, je vais me concentrer sur les réponses aux questions qui ont été posées à l'instant par Laetitia Avia. Alors, sur le premier élément qui est celui de l'article 19, donc relatif au site miroir. Juste rappeler le problème que vous connaissez bien, des sites fascisants ou appelant à la haine sont bloqués par le juge, ils réapparaissent dans l'heure qui suit sous une autre dénomination et il faut relancer une procédure judiciaire qui dure des mois pour que dans l'heure qui suit, le site réapparaisse. Et donc, il y avait des éléments qui étaient prévus dans la loi Avia, que nous avons un petit peu modifiés, qui doivent permettre de bloquer la réapparition de ces sites, en tout cas que le juge décide de bloquer la réapparition de ces sites. Vous avez deux questions. Le premier, c'est sur une disposition que nous avons supprimée par rapport au texte de la loi Avia, qui ne portait pas spécifiquement sur les sites miroirs, mais constituait selon nous en réalité une disposition plus générale sur les pouvoirs du juge. qu'il ne nous a pas semblé nécessaire de conserver, puisque le juge peut d'ores et déjà enjoindre à la fois aux hébergeurs et aux FAI, pardon, ou aux FAI de retirer des contenus. Ensuite, il y a deux sous-articles, le 6.3 et le 6.4, dans la disposition sur le site miroir. Et comment cela se conçoit-il? Si le site est exactement similaire, nous avons par exemple ce problème-là avec démocratie participative, qui réapparaît de la manière exactement similaire, avec une fois en point .xxx, une fois en point .abcd, une fois en point .lol, une fois en point .etc. Et donc, si le site est exactement similaire, le bénéficiaire de la décision de justice peut demander au FAI de dire « ce site, c'est juste en fait l'extension qui a changé, vous devez l'enlever ». Ça, c'est le 6.3. Le 6.4, c'est s'il y a des modifications du site, alors ce n'est pas le bénéficiaire de la décision de justice qui peut demander le blocage du site, mais le juge peut prévoir que l'autorité administrative, en l'occurrence probablement Pharos, pourra là demander le blocage de la réapparition. Donc c'est le projet qui est prévu. Je ne suis pas beaucoup plus long compte tenu du temps qui m'est imparti. S'agissant de la volonté du gouvernement d'avancer sur la question de la haine en ligne, il y a eu une petite difficulté temporelle liée à la présentation, à la date de présentation du Digital Services Act, qui, je crois, a été présentée le 8 ou le 9 décembre dernier, qui a donc, grosso modo, pour volonté de réintroduire des obligations de moyens à la charge des grands réseaux sociaux notamment, qui est qu'ils doivent se doter des moyens de lutter contre la haine en ligne sous la supervision d'un régulateur de la puissance publique. Nous avons mené un travail depuis la présentation du DSA. Pardon, le champ des questions est assez vaste, donc je vais essayer d'être le plus rapide possible. Nous avons mené un travail. Notre objectif est de pré-transcrire, dans le projet de loi séparatisme, les dispositions du DSA relatives aux grandes plateformes, aux grands réseaux sociaux, de manière quasiment miroir, si je puis utiliser cet élément-là. Donc nous devrions transmettre, parce qu'il y a évidemment une sensibilité juridique, on l'a vu avec la décision du Conseil constitutionnel, et une sensibilité européenne du sujet, nous devrions transmettre le texte tel que nous le prévoyons, qui serait donc un amendement au projet de loi séparatisme, dans les jours qui viennent au Conseil d'État, qui devrait l'examiner d'ici la séance publique du projet de loi séparatiste. Ce que nous proposons de faire, dans la foulée de sa transmission au Conseil d'État, c'est de rendre public, notamment à destination de la commission spéciale, le projet de texte, enfin en tout cas le projet de texte que nous avons transmis au Conseil d'État, de telle manière que la commission spéciale soit informée du sujet. Il y a une discussion européenne que nous devons avoir avec nos partenaires, et il y a une étude du Conseil d'État, compte tenu du sujet de la sensibilité juridique et de la question de la conventionnalité, si vous voulez, on rentrera dans le détail, qui fait qu'il y a une petite incertitude sur le fait que le Conseil d'État approuve le texte. Mais en transparence avec la commission spéciale, nous décidons de transmettre le texte avec pour objectif, si le Conseil d'État nous y autorise, de le mettre en séance, mais de telle manière que les choses soient publiques. Voilà, j'ai été un peu long, mais
merci, monsieur le ministre. Je fais preuve d'un peu de tolérance, alors que j'avais dit l'inverse tout à l'heure, parce que nous sommes un peu moins nombreux. Mais mes chers collègues, avant de passer la parole à Anne-Laure Blin, qui s'exprimera au nom du groupe Les Républicains, je voudrais simplement dire un mot de soutien et de solidarité avec nos collègues parlementaires américains qui subissent actuellement quelque chose d'absolument incroyable, d'autant plus que cela a été déclenché, on peut le dire, par la parole du président des États-Unis, encore en fonction, et qui a appelé des manifestants à marcher sur le Capitole, à marcher donc sur le Congrès américain. Des manifestants ont envahi le Congrès, le Sénat. D'ailleurs, le vice-président des États-Unis qui préside le Sénat a dû être évacué. Les séances, évidemment, ont été interrompues. Ces mouvements que l'on peut qualifier de factieux sont absolument intolérables dans une démocratie. Les États-Unis d'Amérique sont une grande démocratie, une vieille démocratie qui a montré sa capacité à résister à beaucoup d'assauts. Et il y a un petit lien avec le sujet qui nous occupe ce soir, car on sait bien que, évidemment, aux États-Unis, les réseaux sociaux et Internet jouent un rôle majeur dans la mobilisation des citoyens, les bonnes comme les pires. que le président des États-Unis encore en fonction, Donald Trump, a toujours utilisé massivement les réseaux sociaux pour mobiliser ses partisans, au point de les inciter à marcher sur le Parlement. C'est extrêmement choquant et je crois pouvoir le faire en notre nom à toutes et à tous, évidemment, de dénoncer cette attitude et par ailleurs d'exprimer encore une fois à notre niveau notre plus grande solidarité avec les parlementaires américains. Imaginez un seul instant si cela se produisait dans notre pays, ici à l'Assemblée nationale en France. C'est évidemment extrêmement choquant. Voilà, je tenais à le dire parce qu'on ne peut pas faire comme si ce qui se passe dans le monde ne nous concerne pas, juste au moment où nous parlons d'un texte de loi qui vise à renforcer les principes républicains. Eh bien, je crois que nous avons là une manifestation malheureusement concrète de ce que les dérives dans l'atteinte aux principes républicains, cela à quoi se peut amener. Mes chers collègues, nous poursuivons avec donc l'intervention d'Anne-Laure Blin, qui intervient pour le groupe Les Républicains en visioconférence. Madame la députée, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en octobre, vous avez effectivement déclaré qu'en matière de lutte contre la haine en ligne, il fallait impérativement que l'État ait un droit de regard, notamment sur les plateformes qui gèrent les réseaux sociaux. Notamment, vous aviez évoqué la création d'une division spécialisée au sein du parquet pour combattre la haine en ligne, qui de fait permettrait une plus grande efficacité et faciliterait une rapidité d'action. Donc, je voulais vous interroger sur ce point, savoir si cette proposition pourrait trouver concrétisation à l'occasion de ce texte, même si le texte, effectivement, évoque la question de la haine en ligne. Malheureusement, il n'y a que très peu de dispositions, finalement, qui traitent de ce sujet, même si, effectivement, l'article 18 trouve son origine à la suite de l'attentat de Samuel Paty. Il est repris par ailleurs un certain nombre de dispositions qui étaient incluses dans la loi Avia, qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Je voulais simplement que vous nous reparliez de ces dispositions, justement parce qu'on ne mesure pas véritablement la différence entre ce qui avait été voté initialement dans la proposition de loi de notre collègue et ce qui il finalement a été censuré par le Conseil constitutionnel. Autre point aussi sur lequel je voulais vous interroger, c'est la plateforme Pharos. La plateforme Pharos qui est donc en mesure de compiler un certain nombre de plaintes en matière de haine en ligne. Simplement, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, parce que cette plateforme a une ancienneté d'une dizaine d'années à peu près, c'est qu'on a très peu de communication et notamment de suivi sur les propos qui peuvent être dénoncés par les citoyens via cette plateforme. Donc, je voulais savoir si vous aviez des éléments à nous communiquer sur les suites juridiques qui sont données aux signalements qui sont établis sur cette plateforme. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci, Madame la députée. La parole est donc à Monsieur le ministre.
Alors, Madame la députée, compte tenu du peu de temps qui m'est imparti, ce que je vous propose, c'est sur le dernier point de votre question, qui est la plateforme Pharos, son fonctionnement, les statistiques de fonctionnement. Je pense qu'il y a lieu de faire un point spécifique, et qui pourrait être fait d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur sur le sujet, mais je pense que ça prendrait un peu de temps. Et donc, je vous permets de renvoyer, compte tenu de 3 minutes, à ce qu'il y ait un point spécifique qui soit fait peut-être par écrit par le ministre de l'Intérieur sur ce point, sur les statistiques, le nombre de personnes, l'augmentation du nombre de personnel, etc. Bon. Sur vos deux premières questions. Premièrement, parquet sur parquet spécialisé, enfin spécialisation d'une chambre du parquet de Nanterre sur la lutte contre la haine en ligne. Alors, sauf erreur, la chambre est entrée en fonction lundi dernier, donc il y a 2 ou 3 jours. Ça a nécessité un travail des services du ministère de l'Intérieur, mais donc, sauf erreur, elle a commencé son action. Donc, elle est en train de structurer son action. Il faut probablement que Éric Dupond-Moretti pourrait vous en dire plus, mais en tout état de cause, de ce que je sais, puisqu'il était question que je fasse un déplacement avec Éric Dupond-Moretti sur ce sujet-là, elle est entrée en service, elle a commencé son travail. C'est extrêmement important parce que, oui, il y a un sujet de retrait des contenus haineux, mais il y a surtout un sujet de sanctions des contrevenants, et cette spécialisation d'une chambre du parquet Nanterre est absolument essentielle, parce qu'on doit faire aussi monter en compétence l'administration sur le sujet. Sur le deuxième sujet, qui est la loi Avia, la loi dite Avia, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. La censure au fond du Conseil constitutionnel s'est concentrée sur l'article 1, et sur ce que le Conseil constitutionnel a estimé être une exigence non proportionnée de résultats de retrait des contenus en 24 heures. Et compte tenu de l'imbrication entre l'article 1 et les articles suivants, notamment les articles 2 à 4 qui parlaient et qui concernaient la question des obligations de moyens, il a censuré par voie de conséquence, mais donc pas au fond, les articles qui portaient sur les obligations de moyens. Lesquels articles, dans une rédaction un peu modifiée, puisque nous collons plus à la rédaction européenne qu'à la rédaction initiale du projet de loi, de la proposition de loi portée par Laetitia Avia, nous réintroduisons aujourd'hui. Mais le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur les obligations de moyens. Il ne s'est prononcé, au fond, que sur l'obligation de résultat contenue dans l'article 1 et a censuré par voie de conséquence toute la suite. Donc on ne peut pas préjuger la constitutionnalité ou pas au regard de la décision du Conseil constitutionnel. C'est bien pour cette raison que nous décidons, que nous allons transmettre dans les jours qui viennent au Conseil d'État la version française pré-transposée du Digital Services Act qui entrera en vigueur, lui, dans quelques mois ou quelques années, et qui, lorsqu'il entrera en vigueur, écrasera les dispositions françaises comme tout règlement européen.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous passons à madame Isabelle Florenne pour le groupe MoDem.
Merci, monsieur le président. Je voulais, avant d'interroger le ministre, vous remercier pour vos propos introductifs concernant les agissements et l'envahissement du Capitole ce soir aux États-Unis, pour vous dire que, évidemment, le groupe démocrate, MoDem et démocrate, s'associe évidemment à cette condamnation. Pense également que tous les groupes politiques du Parlement devraient condamner ce soir de tels agissements dans la grande démocratie américaine. Et je constate, en regardant justement les réseaux sociaux, que certains ne le font pas. Et c'est tout à fait dommageable. Donc, je le redis, tout groupe politique et tous les groupes politiques français et parlementaires devraient s'associer à cette condamnation. C'est extrêmement grave. Et je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet auprès de pour mon groupe. Pour en revenir rapidement aux questions sur ces trois articles, monsieur le ministre, j'ai une question sur l'article 18 pour savoir si il n'y aurait pas besoin de préciser plus précisément, voilà, c'est pas terrible, les dépositaires de l'autorité publique, qu'entend-on exactement ? Est-ce qu'il ne faudrait pas préciser un peu les choses, notamment en ce qui concerne les élus ? Vous avez parlé de l'article 20 et nous sommes évidemment aussi, j'ai lu comme vous ce que vous prépariez comme amendement sur la transposition du Digital Service Act. Et je voulais savoir si l'amendement que vous prépariez prévoit des sanctions financières et de quel type et de quel ordre, parce que je crois qu'il n'y a que ça qui peut fonctionner, notamment sur le manque de moyens des plateformes. Donc je voudrais des précisions, monsieur le ministre, sur ces aspects. Merci.
Merci beaucoup, madame la députée. Pas d'autres orateurs de votre groupe ? Merci, monsieur le ministre. Vous avez la parole pour répondre au groupe MoDem.
Alors, madame la députée, sur la question l'article 18, et donc est-il besoin de plus préciser la question de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, pour éventuellement, enfin, je pense qu'on pourrait éventuellement vous revenir. Je crois que la question des professeurs, compte tenu de l'historique qui a précédé cette loi, est également concernée. Et donc, je pense que le sujet a fait l'objet d'un travail particulier, mais peut-être que nous pourrons poursuivre ce débat. En tout cas, il me semblait que les sujets avaient été assez bien audités. En tout cas, on voit bien toute la différence qu'il y a. J'en profite en deux mots parce qu'il y a eu un petit débat dans l'opinion publique, en tout cas dans médiatique, disant on a déjà une disposition. Oui, aujourd'hui, si vous révélez les données de quelqu'un, vous pouvez déjà être sanctionné. Mais ce n'est pas la même chose qu'un hacker vienne voler une base de données, le publie et puisse être sanctionné par cela, que vous divulguiez le nom, les coordonnées et l'adresse de quelqu'un dans le but de causer du tort à cette personne. C'est bien pire, d'une certaine manière. Sur votre deuxième question, est-ce que nous allons prévoir des sanctions financières ? Oui, nous alignons les sanctions financières liées au non-respect de l'obligation de moyens sur ce qui est prévu dans le Digital Services Act, et donc il y a 6% du chiffre d'affaires, qui sont donc des sanctions extrêmement substantielles, mais on sait que c'est à cette aune-là qu'est jugée l'efficacité, ou en tout cas le caractère efficace et contraignant des dispositions. Et donc oui, nous allons, ce qui sera d'ailleurs supérieur à ce qui était prévu dans la loi Avia, puisque c'était 4% à l'époque, mais on essaye d'avoir vraiment un parallélisme des formes avec ce qui est prévu dans le Digital Services Act.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est ensuite au groupe, donc à Alexis Corbière pour le groupe de la France Insoumise qui intervient en visioconférence. Voilà. Alors, nous n'avons pas le son. Ouais. Voilà, c'est bon.
Okay. Merci, Président. Merci à Monsieur le Ministre. Bon, excusez-moi, moi je prends la discussion au vol. Je voudrais vous reposer la question. Pouvez-vous définir quels outils vraiment nouveaux en matière de possibilité de blocage, vous m'entendez ? En matière de possibilité de blocage de choses qu'on a vues dernièrement, toute haine en ligne, tout élément de radicalisation lié à de la violence qui pourrait diffuser sur les réseaux sociaux, je considère que beaucoup d'outils existent déjà, dotés de peu de moyens, et à commencer par la plateforme Pharos, par exemple. Voilà, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour me convaincre qu'il y a véritablement dans ce texte des choses qui n'existaient pas auparavant et qui n'étaient pas impuissantes souvent en raison de la faiblesse des moyens donnés souvent à ces outils, à loi et donc à nos services publics afin que les lois que nous adoptions deviennent des réalités. Je vous remercie.
Oui, monsieur le député, monsieur le ministre, vous avez la parole.
Monsieur le député, je pense qu'il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Il y a d'abord la question de l'efficacité de la chaîne police-justice que vous venez d'évoquer, qui est absolument indispensable parce qu'il faut faire en sorte que, dès lors qu'il y a une contravention à la loi, les gens puissent être sanctionnés. Et ça, c'est indispensable, je ne bâtis pas plus là-dessus. L'autre élément, c'est que ce qu'on voit, le vrai changement dans le web, c'est la massification, la viralité. Et si on vous profère des menaces de mort, bien sûr, les gens sont comptables, mais même si la justice fonctionnait pour tous ces trucs-là, pour toutes ces contraventions, ça prendrait plusieurs mois. Et en attendant, il y a un déchaînement de violence qui est extrêmement fort. Et donc, ce que nous disons dans la loi, c'est que nous disons aux grands réseaux sociaux, vous devez avoir des équipes de modération efficaces et transparentes. Et donc, vous êtes Twitter, vous êtes YouTube, vous êtes Facebook. D'abord, on doit savoir combien de modérateurs vous avez en langue française. On doit savoir comment fonctionnent vos algorithmes de modération. C'est normal, on est la puissance publique. Et si vous n'avez pas assez de modération, si on estime que vous ne faites pas assez pour modérer, eh ben, on vous sanctionne. On ne qualifie pas les contenus. Si on ne dit pas, vous devrez modérer tel contenu ou tel contenu. On considère globalement, si vous faites bien votre travail de modération, et premier élément, c'est vraiment la transparence. C'est qu'il est normal que, à la fois, la puissance publique, mais également les Français, sachent comment sont modérés leurs contenus. Je veux dire, on est sur des agora qui rassemblent 40 millions de Français pour Facebook. C'est normal qu'on sache comment ils modèrent les contenus. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Pourquoi ils retirent tel contenu et pas tel contenu, comment fonctionnent leurs algorithmes, etc. Et deuxièmement, on considère que trop souvent, vous n'avez pas été à la hauteur. Vous devez vous doter de plus de modérateurs parce que vous rassemblez plusieurs millions de Français. Vous devez avoir des algorithmes éventuellement plus efficaces. Et bien, si vous ne le faites pas, on vous sanctionne. Donc c'est vraiment deux approches extrêmement différentes. C'est-à-dire, un, oui, on doit muscler la chaîne police-justice, et par ailleurs, on doit faire en sorte que ces plateformes qui ont une responsabilité particulière, uniquement les très grandes, doivent avoir des équipes de modération.
C'est clair. Merci, monsieur le ministre. Alors, je profite, parce que je n'ai pas sur mon petit écran l'ensemble des collègues qui sont connectés en visioconférence. Il n'y a pas d'orateur signalé pour le groupe socialiste. Il n'y en a pas non plus, je pense, pour le groupe UDI. Ni pour le groupe Agir. Donc, je passe la parole à Guillaume Vuilletet pour le groupe La République En Marche.
Merci, monsieur le Président. Et je laisserai une minute à ma collègue Caroline Abadie qui souhaitait aussi dire quelques mots à l'issue de ce débat. Je vais être, d'une part, revenir un peu sur ce qui se passe aux États-Unis parce que ça éclaire très tristement ce que nous sommes en train de vivre. Vous disiez, monsieur le Président, qu'il n'y avait pas forcément de référence dans notre histoire. Ce qui m'est venu à l'idée, mais c'est sans doute faux, mais néanmoins c'est le 6 février 34 qui me vient à l'esprit quand nous sommes en train de vivre ce qui se passe aujourd'hui à Washington. Pour autant, la dimension numérique n'est pas exempte là-dedans, parce qu'on voit bien tout ce qu'il y a là-dedans. C'est en même temps un outil démocratique. Et pour reprendre l'exemple des États-Unis, ni Barack Obama ni Bernie Sanders n'auraient pu avoir accès aux financements qui sont les leurs s'il n'y avait pas eu cette démocratie numérique aussi. Qui a sous cette forme-là. Et puis en même temps, c'est le doute avec le complotisme dont on voit les effets au travers de ce que fait aujourd'hui Donald Trump, et ce qu'il a fait d'ailleurs hier. Et enfin, la haine, mais là, qui n'est pas que de la haine politique, qui peut être de la haine sur tout niveau que nous voyons partout. Alors, ce qu'il y a dans les articles 18 et qui suivent doivent nous permettre de mieux agir là-dessus en faisant poser beaucoup de choses sur les plateformes de diffusion. Je n'ai pas l'expertise de Laetitia Avia, j'ai travaillé un petit peu sur la loi fake news en son temps, mais néanmoins, je m'incline bien à volonté devant ses compétences. Pour autant, j'aurais quelques questions. D'une part, est-ce que tout cela n'est pas aussi l'effet d'une forme d'immaturité de notre société par rapport à ce phénomène de la numérisation du débat ? Et que pensez-vous des nécessités ? Et pensez-vous qu'il y aurait une place pour parler d'éducation à Internet, quelque part ? Que ce soit à l'école ou ailleurs. Ma deuxième question, c'est que, évidemment, si je pense que nous avons la nécessité de faire peser les choses sur les plateformes parce que l'histoire de faire... de saisir la justice n'est pas dans le temps d'Internet, c'est pas la même viralité, elle ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous pensez que pour autant que le fait qu'il y ait un anonymat sur Internet n'est pas l'obstacle principal à la responsabilisation des uns et des autres ? Et quand même, une dernière question, si vous pouvez nous préciser un peu les choses, c'est de savoir quand même quels moyens on pourra mettre en face de tout ça, parce que je crois qu'il y a 2000 magistrats qui s'y consacrent en Allemagne. Est-ce que nous avons aussi une ambition à la hauteur de la loi que nous avons votée ?
Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le ministre.
Alors, est-ce la forme d'une immaturité de notre société ? Je ne sais pas si c'est de l'immaturité. En tout cas, si le terme d'immaturité est le bon terme. Je vous renvoie à cet égard-là à l'excellent ouvrage qui vient de paraître de Gérald Bronner, qui s'appelle « Apocalypse cognitive », sur lequel d'ailleurs Le Point a fait sa une la semaine dernière, qui revient sur... l'ensemble de ce mécanisme de l'attrait du cerveau humain pour un certain type d'information, pour la violence, pour ce qui choque, ça, je pense, nécessiterait plus que 3 minutes pour en parler. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, nos sociétés et nos organisations n'avaient pas prévu cela et que cela exige des mesures qui ne sont pas que prophylactiques et pas que défensives. Et que la question de l'école est absolument centrale, à bien des égards, et qu'en tout cas, il faut penser l'éducation et de nos enfants et de nos sociétés et leur fonctionnement en fonction de cette nouvelle donne démocratique. Sur la question de l'anonymat, sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, il est infaisable techniquement, probablement pas souhaitable pour bien des raisons, et surtout, il n'est pas au cœur du problème. Aujourd'hui, 99% des gens ne sont pas anonymes sur Internet. On sait les retrouver. La preuve, c'est qu'on a été d'ailleurs assez efficace pour retrouver un certain nombre de personnes. juste après l'assassinat de Samuel Paty. Le sujet, c'est qu'on ne sait pas gérer la viralité. Si aujourd'hui tout le monde était sous son et la massification, si aujourd'hui tout le monde était sous son vrai nom, on ne saurait de toute façon pas le gérer. On ne sait pas gérer 10 000 personnes qui insultent quelqu'un par jour dans notre processus légal et dans nos chaînes police-justice. Donc c'est ça qu'on doit réfléchir. Aujourd'hui, on sait, dans 99% des cas, retrouver les contrevenants assez facilement. Le sujet, c'est qu'on ne sait pas gérer la massification et la viralité. Et donc c'est un sujet beaucoup plus large. Je pourrais revenir sur les sujets techniques si vous le souhaitez, mais le temps est assez limité. C'est d'ailleurs pour ça, pardon, que la question que vous posez après, qui n'est pas qu'une question de nombre de personnel, qui est aussi probablement à terme des questions techniques de gestion de ces éléments-là, et me semble-t-il, pour l'avenir, une question absolument essentielle, qui est comment notre chaîne police-justice gère la massification et la viralité. On commence à poser des bases, à créer des savoir-faire, à mettre des choses en réseau, à consolider des choses, à faire en sorte d'introduire dans les mois qui viennent la plainte en ligne. C'est aussi indispensable de pouvoir... parce que s'il faut que vous alliez imprimer l'ensemble de vos insultes pour les montrer au commissariat, ça ne marche pas. Et donc, c'est tout un sujet technico-organisationnel auquel nous devons réfléchir. Le petit élément de consolation, si je puis me permettre, c'est qu'il n'y a pas un pays aujourd'hui démocratique qui a su régler la question. Et donc, c'est non seulement un défi pour nous, c'est un défi pour l'ensemble des pays démocratiques, mais il reste encore largement devant nous.
Merci, monsieur le ministre. Alors, il y avait, en fait, le groupe La République En Marche avait prévu de subdiviser son temps de parole. Et donc, je donne la parole à madame Caroline Abadi, qui intervient en visioconférence.
Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre, pour ces premières réponses. Je reviendrai effectivement sur l'aspect éducation, prévention. Ça a été déjà évoqué par mon collègue Guillaume Vuilté. On le voit aujourd'hui, développer l'esprit critique, faire comprendre ce que c'est que l'enfermement algorithmique et ses conséquences, la dépendance aux écrans, le harcèlement, et puis bien sûr comprendre que chaque parole finit toujours par amener à l'acte, et c'est ce qui a été démontré malheureusement aux États-Unis ce soir. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut, à mon avis, réellement reprendre la main, sensibiliser les enfants. On en a déjà parlé, monsieur le ministre, lors de l'examen de la proposition de loi de ma collègue Laetitia Avia. Que pensez-vous donc qu'on puisse faire sur ce texte-là, notamment sur les plus jeunes, sur, je pense, au CM2. Je pense qu'il faut aussi imaginer un parcours, probablement au collège, pour poursuivre cette sensibilisation aux risques et aux bons usages d'Internet. Et puis, lors d'autres auditions que j'ai pu mener, notamment dans la mission sur le racisme, certaines administrations nous ont dit, je ne les citerai pas parce que c'était assez marginal, mais quand même, qu'eux aussi s'inquiétaient parfois que leurs propres agents n'aient pas aujourd'hui cette compréhension des risques d'Internet et que dans leur vie privée, ils utilisaient parfois Internet de façon un petit peu, en tout cas pas forcément toujours très bienveillante, et c'était embêtant pour certains agents qui sont parfois porteurs d'uniformes. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en main à tous les âges de la vie, et j'espère qu'on va pouvoir avancer avec ce texte que nous étudions en ce moment. Merci.
Madame la députée, je crois que...
Pardon. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre à madame
Abadi. C'est un sujet extrêmement large. Je pense qu'on partage assez beaucoup l'approche, vous et moi, on avait eu l'occasion d'en parler lors de la proposition de loi de la députée Avia. Je pense qu'on peut dire, grosso modo, que nous sommes dans une grande transition et que nous ne nous en sortirons pas sans former nos jeunes et nos moins jeunes. Puisque ce que vous évoquez, c'est évidemment les enfants et les adolescents qu'on doit former à ces questions-là, aux risques, aux opportunités, à la pensée critique. Mais d'abord, du coup, il faut former les professeurs, puisque une partie du corps professoral se sent elle-même démunie face à l'ensemble de ces questions-là. Mais par ailleurs, c'est l'ensemble de notre société. Pour revenir sur la question des contrevenants à la loi, il faut bien se rendre compte que quand vous parlez avec des policiers, quand des policiers débarquent chez quelqu'un qui, sur Internet, a menacé de mort les enfants, une personne, a fait des propos homophobes ou racistes ou antisémites, la personne est extrêmement surprise de devoir rendre des comptes sur ce qu'elle a dit sur Internet. C'est ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Elle ne comprend pas de se retrouver devant la justice pour un terme malheureux qui pourtant est une menace de mort. Donc, grosso modo, je pense que oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous devons penser l'évolution de notre société, les cadres, les fonctionnements institutionnels, l'éducation de notre population, d'abord de nos jeunes, mais également de nos moins jeunes, pour faire en sorte d'appréhender la réalité de ce phénomène au bon niveau, puisque c'est un changement de société et c'est une transition. Et donc, on doit être à la hauteur de cette transition.
Merci, monsieur le ministre. Est-ce que tel ou tel collègue, je crois que monsieur Pupponi voulait intervenir du groupe Modem, hein, poser une question.
Monsieur le ministre, je ne suis vraiment pas spécialiste de la question, mais donc je vais poser peut-être des questions de béotiens. L'anonymat, je comprends bien. Okay. Mais ce qui ressort de beaucoup de procédures, c'est le temps très long pour que les opérateurs donnent les noms de ceux qui sont derrière les comptes. Ils connaissent le nom. Et dans le cadre de procédures judiciaires ou de plaintes déposées parce qu'on considère qu'on a été insulté, dans le cadre des procédures judiciaires, ça prend beaucoup de temps et souvent nous dire « Ah, on ne peut pas voilà. ». Donc c'est peut-être là où est le problème. C'est que parfois, les opérateurs ne jouent pas le jeu. D'où la question de ma collègue tout à l'heure sur ben, c'est les fameuses pénalités qu'on peut leur impliquer s'ils ne jouent pas le jeu. Donc comment peut-on œuvrer plus efficacement dans ce domaine?
Alors,
député, monsieur le ministre.
Pardon, monsieur le président, je contreviens.
Vous savez qu'à l'Assemblée, on donne la parole, etc. Non, c'est... ce n'est pas l'immédiateté d'Internet, enfin, pas c'est, tout c'est, à fait. C'est
un manque de régulation, effectivement, de la parole du ministre qui mériterait d'être sanctionné.
C'est important, la régulation, et de réguler les débats, justement.
Alors, en fait, le comportement des acteurs est extrêmement divergent selon la nature des choses et selon le type d'acteur et selon, par ailleurs, la temporalité des choses. Par exemple, sur les questions terroristes pédopornographiques, ça va très vite. À peu près, tout le monde est à peu près bénévolent. Sur les questions de en ligne, ça dépend des acteurs, ça dépend de la temporalité. Il se trouve qu'après Samuel Paty, les gens ont à peu près donné des éléments assez vite. Puis après, on revient, certains donnent les éléments, d'autres les donnent beaucoup plus lentement. La difficulté, c'est qu'une partie des acteurs concernés sont de droit américain. Et donc, ils n'ont l'obligation de donner des informations... Théoriquement, que si vous faites une demande à la justice française, qui doit passer par un mécanisme d'entraide avec la justice américaine, qui, etc., etc. Bon. Je pense que cet élément-là peut s'améliorer. Mais imaginerait-on que la chaîne fonctionne extrêmement bien, la vérité, c'est que la pression retomberait assez vite sur la puissance publique française. Et c'est-à-dire que si on avait, en temps réel, imaginons que nous ayons en temps réel les coordonnées des gens qui insultent les autres sur Internet, on devrait gérer des centaines de milliers de choses par semaine. Et donc, je veux dire, cette question, je vais discuter avec Éric Dupond-Moretti, elle reste entière. Hein. C'est le jour où on voudra s'en préoccuper. Alors, je pense qu'il y a une dimension d'exemple, c'est qu'il faudrait... D'ailleurs, les choses commencent à bouger en la matière. Et quand on commencera à se rendre compte qu'il y a quand même un risque, les gens s'auto-limiteront. Mais voilà, on a ce sujet qui est planté. Je ne nie pas qu'il y a un petit sujet de récupération des informations que vous avez cité, mais il est très différent selon les plateformes et selon les sujets.
Merci, monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes parmi les collègues qui suivent nos débats en visioconférence? Je ne crois pas. Je vais passer la parole à Laetitia Avia, mais je voulais juste... À mon tour, vous poser une question, monsieur le ministre. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, il est indiqué que ce qui est incriminé, c'est d'avoir diffusé des coordonnées ou des éléments d'identification, etc., dans le but de nuire à l'intégrité physique ou psychique. Hein, je crois que ce sont les termes du texte. Je dois dire que ce qui me surprend, c'est qu'on considère que ça pose problème si c'est dans l'intention de nuire à l'intégrité physique ou psychique. Parce que moi, il me semble qu'au nom du respect de la vie privée, tout simplement, les coordonnées personnelles de quelqu'un, que ce soit l'adresse postale, même que ce soit l'adresse électronique, de messagerie électronique, ou que ce soit le numéro de téléphone, fixe ou mobile, ne devrait pas pouvoir être diffusé sur Internet, sur les réseaux sociaux, à l'insu de la personne en question et contre son gré. Si la personne décide par elle-même de diffuser ses coordonnées, c'est son droit. Je pense que avant qu'il y ait Internet, lorsque quelqu'un, si quelqu'un avait fait cela sur des affiches, sur l'espace public, mais sur un autre support, ou dans la presse, cela aurait été condamné. Quelqu'un qui aurait fait du harcèlement téléphonique, ou qui ferait encore aujourd'hui du harcèlement téléphonique, autrefois, lorsque l'Internet n'existait pas, quelqu'un qui était victime de harcèlement téléphonique allait porter plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie, et les policiers ou les gendarmes faisaient une enquête qui permettait éventuellement, ce n'était pas toujours facile, d'identifier l'auteur, si c'était un auteur anonyme, et il pouvait être condamné. Je suis toujours surpris que sur Internet, ces raisonnements ne s'appliquent plus. Alors, vous allez me dire, si, on peut porter plainte, etc. Mais sauf qu'avant qu'il y ait des conséquences concrètes, il s'écoule beaucoup de temps. Et entre-temps, le tort fait à la personne est très important. J'ai des exemples concrets. Hein. J'ai vu, il n'y a encore pas très longtemps, je ne veux pas donner le nom de ce compte Twitter. Il a plus de 5000 followers d'une association, d'un groupe de personnes. Je ne veux pas donner le nom parce que je ne veux pas lui faire de publicité. Qui a diffusé donc dans un tweet les coordonnées d'une personne, son téléphone mobile, son adresse professionnelle et son adresse mail, parce que cette personne, au motif, hein, c'est ce qui est marqué dans le tweet, travaille dans une entreprise de la filière sucrière. Et en disant dans ce tweet, cette personne ne répond pas à nos questions sur la loi sur les néonicotinoïdes, eh bien, que les internautes, en gros, hein, je décris, l'appellent pour lui poser la question. Évidemment, on peut dire, oh, bah, c'est juste l'appeler. Bon, vous voyez bien ce qui peut se passer derrière, que sa ligne téléphonique explose, donc qu'elle ne puisse plus s'en servir normalement, qu'éventuellement cette personne soit harcelée donc téléphoniquement, soit harcelée aussi peut-être sur son lieu de travail, puisque les coordonnées de son lieu de travail sont diffusées, et ainsi de suite. Est-ce qu'on considérera que c'est nuire à l'intégrité physique ou psychique de cette personne ? Bon. Donc moi, je vous pose la question, est-ce qu'il est envisageable, parce que j'imagine que vous avez travaillé sur ce sujet, que ce soit tout simplement la diffusion des coordonnées privées qui soit pénalisée. Je comprends bien que cet article est sans doute né, entre autres, parce que j'imagine que ce n'est pas que de ce drame terrible de l'assassinat de Samuel Paty. Mais il y a plein d'autres cas où, heureusement, ça n'aboutit pas à un assassinat, mais où ça aboutit à des dommages concrets, réels, des personnes. Et encore une fois, là, je prends cet exemple parce que c'est pas une personne connue, c'est pas une personne qui fait de la politique, c'est pas une personne qui a des responsabilités syndicales, associatives, religieuses. Enfin, non, c'est une personne, par sa profession, elle est désignée, sinon à la vindicte, en tout cas au fait de la harceler par soit le téléphone, soit le mail, soit peut-être directement sur son lieu de travail. Donc je vous donne cet exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres pour illustrer mon propos. Peut-être que vous pouvez répondre et puis je passerai la parole ensuite à Laetitia Avia.
Oui, monsieur le président. En fait, pour être extrêmement clair, il existe un délit révélation des données personnelles. Ce que vient faire cet article, c'est qu'il vient majorer quelque part la peine lorsque non seulement vous diffusez des données personnelles, mais en plus c'est dans l'intention de nuire. C'est ce que je dis, c'est pas exactement la même chose de diffuser, alors je reviendrai sur votre exemple, des informations personnelles parce que soit vous êtes dans une base de données qui a été volée, ou l'exemple que vous avez évoqué.
Là, pour être concret, c'était la photo d'une carte de visite.
Ouais. Alors, ce qu'on vient de dire, c'est que si c'est vraiment pour nuire physiquement, dans ce cas-là, c'est majoré. Mais la peine basique existe déjà. Le petit élément qui, je pense, ne ferait peut-être pas rentrer le cas que vous citez dans la case juridique, c'est que je pense que on parle de données personnelles et pas de données professionnelles. et que révéler les données professionnelles, c'est-à-dire email professionnel, téléphone professionnel, adresse professionnelle ou en tout cas entreprise, je ne suis pas certain, mais je pense qu'il faudrait une analyse juridique, que en l'espèce, vous puissiez vous contreveniez à la loi, parce qu'il y a vraiment un traitement très différencié des données personnelles et des données professionnelles. Voilà. Mais ça reste à vérifier.
Voilà, sachant que je rappelle que, pour le coup, dans le cas de Samuel Paty, ce qui avait été diffusé, c'était le lieu de travail. Voilà, hein, c'était, et on sait bien qu'on peut porter atteinte à quelqu'un en désignant son lieu de travail et pas simplement son lieu d'habitation, par exemple. Excusez-moi, du coup, on fait un dialogue un peu en ping-pong, mais c'est comme ça aussi qu'on peut progresser et aller au fond des choses. Alors, si vous voulez répondre, et puis ensuite...
Non, il faudrait, je pense, je vous propose qu'on mène un travail un peu spécifique, parce que je pense que là-dedans, dans le cas de la majoration, enfin de la peine majorée, c'est visé, puisqu'on parle de gens qui sont, qui sont par ailleurs dépositaires d'autorité publique, etc. Oui, c'est données familiales ou professionnelles. Mais je faisais une digression sur révéler des données par ailleurs, sans intention de nuire, donc dans ce qui existe, et je ne suis même pas totalement certain de ce que je vous dis, c'est juste mon petit... Je pense que c'est le cas, mais voilà. En tout cas, pour l'article dont nous parlons, donc l'article 18, ou 19, oui, c'est ça, 18, on parle bien de données personnelles, familiales ou professionnelles. Donc le cas est couvert.
Est-ce que M. Vigier ou M. Pupponi, vous souhaitiez intervenir ou pas ?
Non, mais merci, M. le Président. Monsieur, oui, non, on relisait avec François Pupponi l'article, parce que vous avez raison d'avoir insisté tout à l'heure sur le fait de révéler, diffuser ou transmettre par quelques moyens que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant d'identifier, de le localiser dans le but de l'exposer, elle et les membres de sa famille, à un risque immédiat d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, ou au bien, et puni 3 ans d'emprisonnement. Et plus largement, monsieur le ministre, tous ces algorithmes, vous savez, qui déversent des tonnes de messages orduriers, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, est-ce qu'avec ce texte, ça permettra ou pas d'avoir une identification plus facile, parce qu'il m'est arrivé, moi, dans mon cas, d'être concerné, mais je connais beaucoup d'autres personnes comme cela, des messages de haine, des messages qui sont un peu particuliers. Et je veux savoir si, avec ce texte, il y aura une meilleure protection des concitoyens et des usagers. Parce que les plateformes de régulation là-dessus, moi, j'ai eu l'occasion de les interroger, m'ont avoué que les éléments techniques utilisés au travers de ces algorithmes sont, pour eux, très difficilement perceptibles. Donc là, se pose un problème dont je n'ai pas, évidemment, la compétence pour le cerner, mais voir si ou non on peut trouver une solution.
Alors, pour répondre très directement à votre question, si les propos qui vous sont adressés sont orduriers, je pense que, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils sont illicites, je pense que le texte aura une efficacité dans le retrait de ces propos-là. C'est-à-dire que les plateformes, si par exemple on cite des cas assez concrets, certaines plateformes, comme Facebook, peuvent avoir des trous dans la raquette, mais font un effort assez important en termes de nombre de modérateurs et de réactivité sur le retrait des contenus, y compris technique. Ça ne veut pas dire qu'ils retirent tout, mais ils font un effort. Certaines autres plateformes, certains autres réseaux sociaux, je pense par exemple à celui de Twitter, a plusieurs fois été épinglé pour la lenteur de sa réactivité et le fait que, par exemple, en tant que responsable public, je n'ai jamais pu savoir combien de modérateurs travaillaient sur les contenus en langue française pour Twitter. Eh bien, d'abord, non seulement on devrait être capable de le savoir, mais s'il est manifeste que leur efficacité est en deçà de la main, alors ils seront passibles d'une peine financière très importante. Et donc, oui, je pense que ça améliorera la modération des réseaux sociaux dont on peut estimer qu'elle est aujourd'hui insuffisante.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, peut-être ce sera cette fois la dernière question. Laetitia Avia, rapporteure sur cette partie du texte.
Merci, monsieur le Président. Et merci, monsieur le ministre, pour l'ensemble de vos réponses. J'ai coutume, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, de dire ce qui est interdit dans la vie, dans l'espace public, doit être interdit également sur Internet.
Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de comportements qui sont finalement induits par l'activité d'Internet. Et notamment, c'est pour ça que cet article 18 existe, c'est qu'il y a ce comportement qui est celui de lancer un peu des fatwas numériques. Et c'est ce qu'on a déploré dans le malheureux assassinat terroriste de Samuel Paty. Donc ce chapitre haine en ligne tel qu'il existe aujourd'hui, il crée de nouveaux moyens juridiques nécessaires pour poursuivre les auteurs des délits. Vous nous avez tout à l'heure indiqué que nous allions avancer sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir réguler les réseaux sociaux et leur donner des obligations de moyens, et notamment pour créer le lien entre les deux. Et c'est les questions qui sont évoquées aussi par pas mal de mes collègues concernant l'identification des auteurs. Vous avez tout à l'heure parlé de rythmes différenciés en fonction des plateformes. Est-ce que demain, lorsque ces dispositions seront prises, nous pourrons nous assurer qu'on est presque dans une obligation de résultat en fait, des plateformes lorsqu'il s'agit de donner les éléments d'identification de ceux qui sont des pourvoyeurs de haine sur leurs outils ? C'est ma première question. Ma seconde question, le texte européen qui a été présenté par Thierry Breton reprend un certain nombre d'obligations de moyens que vous avez évoquées tout à l'heure, sur la transparence, sur les conditions générales d'utilisation, sur l'obligation d'avoir des modérateurs, qui sont des éléments dont nous avions débattu dans le cadre de la loi de lutte contre les contenus haineux et qui avait fait le consensus, en tout cas, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans le texte européen, il y a d'autres éléments que nous n'avions pas encore débattus, tels que, par exemple, la suspension des comptes de ceux qui abusent de la liberté d'expression, notamment parce que ce qu'on appelle ces trolls, hein, qui vont soit faire des signalements abusifs de comptes, soit qui vont plusieurs fois être épinglés pour avoir des contenus illicites. Est-ce que ce sont des mesures qui sont proposées aujourd'hui dans le texte européen, sur lesquelles vous voulez également avancer à l'échelle nationale ? Merci.
Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre.
Alors, Madame la rapporteure, sur les deux éléments que vous évoquez, ce qu'il y a de prévu dans le DSA qui doit permettre de faciliter les discussions juridiques avec les plateformes, entre les plateformes et les autorités judiciaires, ou en tout cas la plupart des autorités publiques, c'est l'obligation d'avoir un point de contact unique au niveau européen et d'avoir d'ailleurs des personnes représentantes des plateformes au niveau sur le territoire de l'Union européenne. Ce qui permet d'avoir quelque part un point de contact et un représentant légal des plateformes dans le domaine de l'Union européenne. Je ne crois pas, mais je vais vérifier le point, qu'il y ait des éléments dans le texte européen, a fortiori dans le texte français, relatifs aux transmissions d'informations. De mémoire, je pense que le sujet est très lié au due diligence et la capacité à faire après... Pardon, c'est due diligence, c'est un terme anglais, mais qui est le terme qui est contenu dans le Digital Services Act, on va dire les obligations de moyens pour le traduire un peu imparfaitement en français, et à la capacité à faire appliquer ces obligations de moyens. Je ne crois pas que sur la question judiciaire en tant que telle, il y ait des éléments qui soient prévus dans le texte européen, a fortiori dans le texte français. Ce que nous allons pré-transposer n'est pas l'intégralité du Digital Services Act. Ce que nous allons pré-transposer est la partie relative aux obligations de moyens pour les très grands réseaux sociaux. Nous ne faisons pas une pré-transposition de l'ensemble du Digital Services Act, dont un certain nombre d'éléments, d'ailleurs, vont évoluer dans la discussion européenne. Mais compte tenu de l'urgence, nous traitons le plus gros du problème, qui sont la modération des contenus haineux sur les très grands réseaux sociaux.
Merci, monsieur le ministre, sauf à ce que vous ayez... envie de délivrer un dernier message à notre commission à ce stade. Vous l'aurez compris, je pense que c'est un sujet sur lequel beaucoup de collègues de la commission voudront apporter peut-être des compléments par voie d'amendement à ce texte. Et en tout cas, ce sera un des sujets importants dans les débats que nous aurons en commission et dans l'hémicycle. Donc vous serez sans doute d'ailleurs sur le banc au nom du gouvernement sur ces sujets. Donc nous nous reverrons bien sûr. Je vais donc lever la séance. Avant cela, je vous rappelle que demain et après-demain, ce sont des auditions menées par les rapporteurs thématiques. Dont je ne peux pas vous donner tout le programme car il est évidemment assez touffu, mais il vous a été envoyé et nous recommencerons dans le format de notre commission lundi matin à 8h30 avec l'audition du Conseil français du culte musulman qui n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que je vous ai déjà dites lundi et donc qui est reprogrammé lundi prochain et d'autres auditions bien sûr qui s'enchaîneront. Nous aurons un programme assez chargé la semaine prochaine, comme vous vous en doutez. Bonne fin de soirée, à très bientôt.